Nous avions nourri notre cœur de fantasmes. De telles mets l'ont rendu impitoyable. William Butler Yeats. The Stairs Nest by My Window. Prologue. Semet, Maroc.
Madame Wilcock.
Au prix d'un gros effort, elle souleva sa paupière gauche et une chaude lumière jaune inonda sa rétine. Son champ de vision était barré par une silhouette floue. Elle referma son œil.
Madame Wilcock.
Un bip strident se faisait entendre quelque part. Cette fois, elle se força à ouvrir les deux yeux. Elle était allongée sur un lit inconfortable bordé par des rideaux crasseux.
Madame Wilcock.
Elle tourna la tête avec difficulté. Un homme vêtu de ce qui ressemblait à un uniforme militaire était assis sur une chaise installée à son chevet. Penché en avant, il l'observait attentivement. Les rondeurs de son visage évoquaient celles d'un poupon en plastique. Il ne souriait pas.
« Madame Wilcock ?»
dit-il pour la quatrième fois.
« Hélène ?»
demanda-t-elle d'une voix faible.
« Hélène, oui. »
Il hocha la tête.
« Savez-vous où vous êtes ?»
questionna-t-il en anglais. Elle regarda autour d'elle.
« À l'hôpital ?»
« C'est ça.
Vous avez eu une soirée agitée. »«
Pardon ?»«
Très agitée, même. »
Elle laissa échapper un petit rire involontaire. Son interlocuteur fronça les sourcils, visiblement agacé. Au même instant, le rideau sur sa gauche coulissa et tous deux tournèrent la tête. Une femme en blouse blanche, coiffée d'un foulard également blanc, s'avança vers eux. Une infirmière ? Elle s'inclina vers le lit, le visage éclairé par un sourire chaleureux, et prononça quelques mots dans une langue étrangère en lissant de la mince couverture. Puis, elle se tourna vers l'homme et s'adressa à lui d'un ton plus cassant. Il se leva avant d'écarter les bras en un geste d'apaisement. Après avoir esquissé un sourire froid, il tira le rideau de l'autre côté et disparut. La jeune femme dans le lit voulut interpeller l'infirmière, mais elle aussi s'en allait.
« Attendez !»
appela-t-elle d'une voix éraillée. En vain. L'infirmière ne l'entendit pas ou choisit de l'ignorer. Elle resta seule. Son regard se fixa sur le plafond, lequel était constellé de taches d'humidité brunâtre. Elle tenta de se redresser en position assise pour s'apercevoir que ses mouvements étaient entravés par un plâtre à son poignet gauche. C'est à ce moment-là seulement qu'elle prit conscience de la douleur. Tout son corps l'élançait. Elle reporta son attention sur la chaise que l'homme avait occupée. Il l'avait appelée « Madame Wilcock ». L'information semblait importante, pourtant elle ne parvenait pas à lui donner un sens. Elle referma les yeux. Quelques instants, ou peut-être des heures plus tard, le rideau se rouvrit. L'infirmière s'approcha, accompagnée par un homme différent.
« Bonjour, Madame Wilcox, » dit-il. « Je suis heureux de voir que vous êtes réveillée. »
Il parlait mieux anglais que le précédent visiteur, en détachant soigneusement chaque syllabe.
« Je suis le docteur Tazi. J'étais de garde quand vous êtes arrivé hier soir avec deux côtes cassées, le poignet fracturé et des hématomes sur le visage et le torse. On m'a dit que vous aviez eu un accident de voiture. C'est le genre de blessure typiquement causée par les airbags. Vous avez de la chance que ce ne soit pas plus grave. »
Comme si elle n'attendait qu'un signal, l'infirmière présenta à la patiente un gobelet d'eau et un comprimé blanc gros comme une molaire.
« C'est de l'hydrocodone, un antidouleur, »
expliqua le médecin.
« Je repasserai cet après-midi évaluer votre état, mais, à mon avis, vous devriez pouvoir sortir demain. Jusque-là, tâchez de vous reposer, Madame Wilcox. »
Il s'éloigna, entraînant dans son sillage l'infirmière vêtue de blanc. Madame Wilcox. La jeune femme articula le nom en silence. Hélène. Puis la lumière reflua et le sommeil l'emporta. Chapitre 2. Pendant toute la soirée, Florence sentit Simon la suivre des yeux dans la salle. Ce n'était pas la première fois qu'elle éveillait l'intérêt d'un homme plus âgé, mais en Floride, les sourires lubriques de ses aînés lui avaient toujours inspiré du dégoût, car il semblait l'inclure dans quelque chose dont elle ne voulait pas faire partie. En l'occurrence, elle appréciait le regard de Simon. Il ne ressemblait pas aux hommes qu'elle avait connus dans sa jeunesse. Eux, ils avaient des armes et des marques de bronzage laissées par un débardeur. Lui possédait des éditions originales et le sens de l'ironie. Et puis, bien sûr, ce n'était un secret pour personne qu'il était marié à Ingrid Thorne, l'actrice. L'intérêt qu'il manifestait à son égard donnait à Florence le sentiment d'avoir gagné une place dans une sphère plus élevée de l'existence, comme si son attention avait le pouvoir de révéler une part d'elle jusque-là insoupçonnée. 2 heures plus tard, la foule commença à se disperser et Lucie lui demanda si elle était prête à partir. Elles habitaient toutes les deux à Astoria, aussi rentraient-elles souvent ensemble. « Non, mais vas-y, toi, » répondit Florence. « Je crois que je vais boire encore un verre. »
« Pas de problème, je t'attends. »«
Non, vas-y, je te dis. »«
Ok, »
fit Lucie l'air hésitant.
« Tu es sûre ?»«
Certaine, » affirma Florence. Il lui arrivait de trouver l'amitié de Lucie étouffante. Pourtant, si on l'avait poussée dans ses retranchements, elle aurait bien été obligée d'admettre que l'ampleur de son dévouement lui procurait un sentiment de sécurité qui compensait largement ce désagrément. Sans doute parce que sa mère lui avait appris très tôt à n'attacher d'importance qu'aux émotions les plus exacerbées. Tout ce qui était tempéré lui paraissait froid et factice. Lucie s'en alla après lui avoir adressé un petit signe mollasson de la main. Florence commanda encore un verre de vin qu'elle but lentement, en balayant la salle du regard. Il ne restait plus qu'une 20aine de personnes, mais elle n'en connaissait pas une seule assez bien pour pouvoir l'aborder. Simon discutait dans un coin avec le responsable des relations publiques et ne paraissait pas désireux de mettre un terme à la conversation. Elle se traita d'idiote. Qu'avait-elle espéré au juste? Après avoir reposé son verre sur le bar, avec plus de force qu'elle n'en avait eu l'intention, elle s'approcha du tas de vêtements empilés près de la porte. Elle récupéra son manteau, puis quitta le bar. Dehors, le vent fouetta ses jambes nues. Elle prit la direction du nord et marcha d'un bon pas vers la station de métro. Elle s'apprêtait à tourner dans la 8e rue quand elle entendit quelqu'un l'appeler. Elle pivota. Simon trottinait vers elle, son pardessus bleu marine soigneusement plié sur le bras.
« Vous seriez tenté par un dernier verre ?»
demanda-t-il d'un ton désinvolte, comme s'il ne lui avait pas couru après.